Cet ouvrage a été lu à plusieurs voix par 10 collaborateurs de la société Odigo qui s'est engagé aux côtés de l'association des donneurs de voix dans un mécénat financier, ainsi que dans la réalisation de plusieurs ouvrages collectifs au bénéfice des personnes empêchées de lire.
Le scandale du siècle, écrit journalistique de Gabriel Garcia Marquez. La présente anthologie nous offre un parcours inédit dans l'œuvre du grand écrivain colombien. Gabriel Garcia Marquez fut ce grand conteur de l'histoire, aussi bien à travers ses romans que dans ses écrits dits journalistiques.
Marie-Eugénie.
La Pacha Pérez. Pleurer le mort. Une des activités qui, sur le littoral atlantique, présente les plus curieuses et extravagantes nuances, et pour les natifs de la Sierpe, une occupation qui n'échoit pas à la famille du défunt, mais à une femme qui, par vocation et expérience, devient pleureuse professionnelle. La rivalité entre celles qui s'acquittent de cet office revêt les caractères les plus alarmants et a des conséquences beaucoup plus sombres que la joyeuse compétition entre les jeunes gens chargés de moudre le café. Pacha Pérez, génie des pleureuses entre toutes les pleureuses de la Sierpe, fut une femme autoritaire et émaciée, dont on dit qu'elle fut changée en serpent par le diable à l'âge de 185 ans. Nul n'a jamais plus eu une voix comme la sienne. Jamais plus les marécages foisonnants de la Sierpe n'ont donné naissance à une femme dotée comme elle de la faculté hallucinante et satanique de condenser toute l'histoire d'un homme défunt en un seul cri.
David.
L'heure de la mort. Les premiers constats établis ne faisaient pas mention d'un élément essentiel. Le docteur Di Giorgio, premier médecin à avoir examiné le cadavre sur la plage de Torva Yanica, l'a déclaré en état de semi-rigidité progressive. Or, la rigidité cadavérique ne se déclare qu'au bout d'un certain temps, période pendant laquelle elle gagne peu à peu la dépouille. Ensuite, c'est le phénomène inverse qui se produit. En précisant que le cadavre était partiellement rigide, le docteur Di Giorgio avait une raison pour affirmer qu'il s'agissait du processus de rigidification progressive, c'est-à-dire la rigidité qui s'empare de la mandibule, du cou et des extrémités supérieures. Le physiologue Pierre Hubert Nisten a établi, règle confirmée par l'expérience, que la rigidité cadavérique commence par les muscles de la mandibule, se poursuit dans ceux du cou et des extrémités supérieures.
Florence.
Un kilomètre après l'île Marguerite, en aval du Danube, il y a un quartier prolétaire populeux où les ouvriers de Budapest vivent et meurent entassés. Il y a des bars bien chauffés, pleins de fumée et bondés derrière leurs portes closes, dont la clientèle consomme d'énormes pichets de bière, dont le crépitement de mitraillettes soutenues les conversations en langue hongroise. Le soir du 28 octobre, ces gens se trouvaient là, quand leur était parvenue la rumeur que les étudiants avaient lancé le soulèvement. Alors, on avait abandonné les pichets de bière, on était remonté par les berges du fleuve jusqu'à la petite place du poète Petofi, et l'on avait rejoint le mouvement. J'ai fait le tour de ces bars en fin de journée, et j'ai pu constater qu'en dépit de la loi martiale, de l'intervention soviétique et de la tranquillité apparente qui règne dans le pays, le germe du soulèvement est encore vivace. Quand j'entrais dans ces bars, le crépitement devenait une sourde rumeur. Nul ne voulut rien dire, mais quand les gens se taisent, par crainte ou par préjugé, il faut aller aux toilettes pour savoir ce que pense la clientèle. Là, j'ai trouvé ce que je cherchais. Entre les dessins pornographiques, grands classiques de toutes les pissotières du monde, il y avait des inscriptions avec le nom de Kadar, protestation anonyme mais extraordinairement significative.
Donia.
Le tigre d'Arakataka. Aussi vrai qu'elle soit, et elle l'est sans doute, la nouvelle sur le tigre d'Arakataka semble ne pas l'être. Il n'y a pas de tigre dans cette région, et celui qui l'a affirmé avait bien des raisons de le dire. Les tigres y ont disparu depuis de nombreuses années, furent vendus pour fabriquer des tapis dans divers coins de la terre, à l'époque où Arakataka était un village cosmopolite dans les rues duquel nul ne descendait de cheval pour ramasser un billet de 5 pesos. Par la suite, une fois retombée la fièvre de la banane et Chinois, Russes, Anglais et émigrants du monde entier partis ailleurs, il ne resta à Arakataka nulle trace de la splendeur passée, ni des tigres. Il n'en resta rien. Il serait cependant bon que l'histoire du tigre soit vraie, pour que les linotypes reviennent avec insistance 5 fois de suite sur la même lettre, et que quelqu'un se souvienne encore d'Arakataka, la terre de Radragaz, comme l'a dit un auteur humoristique, et pense à elle comme on pense tôt ou tard à toutes les municipalités colombiennes, même celles dont le nom n'est pas aussi difficile à prononcer.
Adrien.
Latitude suspecte. Quant au comportement de la famille après la mort de Wilma, l'instructeur établit, grâce aux écoutes téléphoniques, que la mère de Wilma tirait parti des publications de la presse sur la mort de sa fille. Elle toucha plusieurs centaines de lires en échange des informations qu'elle livrait. Et, en une certaine occasion, dit le rapport, elle se plaignit de la maigre récompense qu'on lui offrait et exhorta les journalistes à écrire quelques articles plus épicés. De ces investigations et d'autres, la commission d'instruction aboutit à la conclusion que Wilma Montesi menait une double vie. Habituée depuis son jeune âge à un luxe sans commune mesure avec son statut social, élevée dans un milieu familial que ne caractérisait guère une grande rigueur d'habitude et de mœurs, Wilma rêvait d'une vie meilleure et jouissait d'une entière liberté de sortir matin et soir. Il n'était plus si invraisemblable que cette véritable Wilma Montesi, tellement différente de celle forgée par les journalistes, eût été en contact avec des trafiquants de drogue et participé à une partie fille.
Nadège.
Monsieur Jarmon joignit par téléphone Carlos Llorente et lui dit « Mettez tout en œuvre pour que les ampoules de sérum arrivent à temps. » C'était l'ordre que Llorente attendait. Par un canal spécial réservé aux avions en péril, il envoya à 14h50 un câblogramme à Miami, à New York et à Maiquetilla, ce qu'il fit avec une parfaite connaissance des itinéraires de vol. Toutes les nuits, sauf le dimanche, part de Miami pour Caracas un avion cargo qui arrive à Maiquetilla le lendemain à 4h50. C'est le vol 339. 3 fois par semaine, les lundis, jeudis et samedis, part de New York le vol 207 qui arrive à Caracas le lendemain à 6h30. À Miami comme à New York, on avait 6 heures pour trouver le sérum. On en informa l'aéroport de Maiquetilla afin que l'opération y fût suivie attentivement.
Emily.
Portrait chinois. Ces absurdités, multipliées à l'infini, qui suffiraient à rendre fou un individu normal, n'ont pas altéré le système nerveux des 6 fonctionnaires qui, pendant 8 heures par jour, font leur possible pour trouver les destinataires des milliers de lettres perdues. De la léproserie d'Agua de Dios arrivent, plus particulièrement aux alentours de Noël, des centaines de lettres sans nom. Toutes lancent un appel. Pour le monsieur qui tient un petit magasin dans la 28e rue Sud, 2 maisons après la boucherie, lit-on sur l'enveloppe. Le facteur découvre qu'il est non seulement impossible de savoir de quel petit magasin il s'agit tout au long d'une rue d'une 50aine de pâtés de maisons, mais aussi qu'il n'y a pas dans tout le quartier la moindre boucherie. Il n'empêche qu'une lettre d'Agua de Dios est tout de même parvenue à destination sur les indications suivantes. Pour la dame qui tous les matins se rend à la messe de 5h30 à l'Iglesia de Egipto. En persévérant, à force de recherche, les employés et coursiers du bureau des souffrances réussirent à identifier le destinataire anonyme.
Olivier.
La fille de l'automobile. Mais pendant que la police démolissait les témoignages, les journaux attisaient le scandale. Et l'on finit par découvrir que le 14 avril, 2 jours après la découverte du cadavre, un mécanicien d'Ostie s'était présenté au commissariat de police pour raconter ce qu'il savait de la voiture ensablée sur la plage dont Il Roma avait parlé dans son article à Sensation. Le mécanicien s'appelait Mario Piccini. Il raconta à la police que la première décade de mars, alors qu'il travaillait pour la gare ferroviaire d'Ostie, un jeune homme était venu le trouver, peu avant le lever du jour, pour lui demander de l'aider à remorquer son automobile. Piccini dit avoir accepté très volontiers et remarquer pendant la manœuvre la présence d'une jeune femme à l'intérieur du véhicule ensablé. Cette jeune femme ressemblait beaucoup au portrait de Vilma Montesi publié dans les journaux.
Alexandra.
À partir de l'extraordinaire publicité faite à cet événement, l'un des plus importants de l'histoire de l'humanité, d'un point de vue scientifique, les lecteurs de tous les journaux du monde prirent en 4 jours un cours intensif et exhaustif d'aéronautique. Ce que l'on ne sait pas encore concernant Spoutnik 1, outre le matériau dans lequel il a été fabriqué, c'est le combustible utilisé pour le lancement et l'heure exacte à laquelle il fut mis sur orbite. Les Soviétiques avaient une raison pour garder ce moment secret. À partir de l'instant du lancement, les scientifiques des États-Unis auraient pu calculer l'endroit exact d'où il avait été lancé. C'est un gadget sans importance, déclara un militaire américain quand il apprit que la Terre avait un nouveau satellite de fabrication soviétique. Mais ce gadget sans importance, dont la transcendance scientifique est incalculable, était en même temps la démonstration que Nikita Khrouchtchev n'avait pas menti en disant que son pays disposait d'un missile capable d'atteindre n'importe quelle région de la planète.
Benoît.
Parmi de nombreux autres témoins, un peintre, Franci May, qui avait vécu une semaine avec Adriana Bisaccia, l'une des deux femmes mentionnées par Muto comme source de ses informations, raconta à la police une histoire passionnante. Il dit qu'Adriana Bisaccia était la proie de rêves horribles. Elle parlait, d'une voix angoissée, dans son sommeil. Pendant l'un de ses cauchemars, elle s'était mise à crier, terrorisée. « Dans l'eau ! Non ! Je ne veux pas me noyer ! Je ne veux pas mourir comme elle ! Lâchez-moi !» Pendant que le peintre faisait sa dramatique déposition, une femme affolée par l'abus de stupéfiants se jeta de la fenêtre du 3e étage de son hôtel d'Alessandria. La police trouva dans son portefeuille, noté sur un morceau de papier, 2 numéros de téléphone qui ne figuraient pas dans l'annuaire téléphonique de Rome. C'étaient 2 numéros privés. L'un était celui d'Hugo Montagna, l'autre celui de Piero Piccioni.